On va parler avec Benoît Brunet maintenant de hockey parce que il y a des nouvelles qui ont fait la manchette. En fait, on va commencer, Benoît, avec c'est une rumeur. Je sais pas jusqu'à quel point la rumeur peut être sérieuse, mais elle fait état de Alex Galchenyuk qui pourrait être de retour chez le Canadien. En fait, le Canadien fait partie d'un groupe de quelques équipes intéressées à avoir Galchenyuk. Est-ce que Galchenyuk peut être encore utile aux Canadiens? Est-ce que le Canadien devrait dépenser de l'énergie pour un gars qui l'a échangé?
Ou pas dépenser beaucoup d'argent?
Ouais. Ça, c'est peut-être le bon point de l'affaire, là.
Ben, moi, je pense que c'est ça. C'est là où Galchenyuk est rendu dans sa carrière. S'il veut poursuivre sa carrière dans la Ligue nationale, ça va être à rabais. Il coûtera pas trop cher à un club qui va vouloir le signer. Puis je pense que Galchenyuk a pas mal joué dans les séries avec Toronto. Tu es devenu un gars de profondeur. Est-ce que ça peut être ton 11e, ton 12e, ton 13e, ton 14e attaquant? Quand on regarde le club ferme du Canadien, je pense qu'il y a des jeunes présentement qui doivent continuer à se développer. Il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui sont prêts à faire le saut. Galchenyuk, c'est un gars qui appartient quand même à la Ligue nationale, mais ça peut être un gars qui va venir remplir un trou, tu sais, plus au niveau de ta profondeur, qui jouera peut-être pas un rôle très important avec l'équipe sur un trio régulier où il va jouer tous les matchs. Moi, je pense que c'est ce genre de signature, si tu vas chercher un gars comme Galchenyuk pour dire, bon, ben, c'est un gars qui appartient à la Ligue, on a une couple de blessés, il peut nous en donner un peu offensivement. C'est ce qu'il a fait à Toronto dans les séries quand Tavares est tombé au combat. On lui a donné un rôle, mais assumer un rôle dans le top 6 ou dans le top 9, même, je dirais même dans le top 12 du Canadien, puis d'être capable d'être régulier, constant tous les soirs, moi, je pense qu'il y a de la difficulté à faire ça. Fait que, à bas prix, ça fonctionne. Ça fonctionne pas, tu le laisses partir, tu le renvoies des mineurs, tu peux faire ce que tu veux avec un contrat qui ne coûte pas trop cher. Ça fera pas mal à la masse salariale, puis tu peux le signer. Écoute, ça peut arriver. Moi, je suis pas trop chaud à l'idée parce que c'est habituellement un gars comme ça qui a eu des problèmes à Montréal où ça s'est mal terminé un peu pour lui. Ben, c'est sûr que s'il produit pas puis il joue pas à la hauteur des attentes des gens, tu sais, les gens vont se souvenir de ses 30 buts au lieu du gars qu'on a vu au cours des dernières années qui a de la difficulté à se dénicher un rôle avec un club dans la Ligue nationale. Ben là, ça peut devenir pesant au niveau des médias pour lui. Fait que moi, je pense que c'est pas le plan A, c'est pas un plan B, c'est pas un plan C. Je te dirais même que c'est plus un plan D si t'es pas capable d'aller chercher un joueur qui pourrait venir t'aider à bas prix.
Là, de toute façon, de ce que on se souvient de lui, c'est la passe qu'il a faite, qui a mené au revirement, qui a mené au but de Suzuki en prolongation dans le cinquième match quand Caulfield a intercepté la rondelle.
Ouais, c'est ça. Puis, il y avait eu un bon match, je me souviens pas c'est lequel là dans l'historique là, qui avait récolté 3 points au Centre Bell. Je sais pas si c'est le 3e ou 4e, mais c'est vrai qu'il en avait eu un bon, mais après ça, il a donné la victoire au Canadien.
C'est ça.
Ça a relancé le Canadien, ce but-là, mais tu sais, c'est ça, Galchenyuk. Galchenyuk a un potentiel offensif qui est encore là. Tu perds, disons, un gars comme Mike Hoffman pour un mois, 2 semaines, 3 semaines, ben en avantage numérique, tu peux lui donner ce rôle-là, là, hein, tu sais, de décocher des tirs. Fait qu'il peut t'aider. Puis ça te prend des gars aussi pour te rendre en série éliminatoire. Moi, je pense que c'est un gars qui peut t'aider à te rendre en série éliminatoire, mais les attentes, il ne faut pas qu'ils soient très, très élevées dans son cas. Si tu t'attends trop de Galchenyuk, moi, je pense qu'il a de la difficulté à gérer cette pression-là. Puis, tu sais, Hoffman est capable de la mettre dedans, puis il le fait depuis un bon bout de temps. Ce que le Galchenyuk n'a pas réussi à faire avec plein de clubs. Fait qu'au niveau de la constance, ça fait mal. Puis, au niveau de ce qu'il peut te donner défensivement aussi pour t'aider à gérer des matchs, ben ça aussi, il y a une lacune de ce côté-là. Le Hoffman, tu sais qu'il va en marquer, mais défensivement, il sera pas bon, mais il va en mettre dedans. Tandis que Galchenyuk, le faire sur une base régulière, c'est tough pour lui. C'est très, très difficile pour lui de le faire, puis d'être constant au niveau de ses performances. Fait qu'imagine-toi si tu le places même sur un 4e trio, puis défensivement, il fait pas le job, puis il te donne pas de points, ben il devient, moi je dirais, un peu inutile à l'équipe. T'sais, j'aime mieux avoir des gars qui sont capables de grinder. T'sais, un Mathieu Perrault, c'est un 4e trio qui peut t'en donner offensivement, mais qui va se donner à chaque présence, puis qui va être solide défensivement, qui va faire sa job. Moi, j'aime mieux un gars comme ça que d'avoir un Galchenyuk, c'est un 4e trio, puis là, tu le regardes, tu te dis, bon, quel genre de match qu'il va nous donner à soir?
Es-tu surpris qu'il n'y ait pas eu d'annonce concernant une prolongation de contrat pour Marc Bergevin?
Oui, un peu, mais de l'autre côté, si on lit entre les lignes avec tout ce que les points de presse qu'il a fait, puis je me souviens bien en début de saison, je me souviens pas si c'était au mois de janvier, mais quand Marc Bergevin a fait sa tournée puis il était avec toi puis Fred à RDS, je me souviens qu'il a dit si tu reculerais 8-9 ans en arrière, qu'est-ce que tu diras à Marc Bergevin? Puis il dit peut-être pas accepter la job. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains mois, pour les prochaines semaines dans son cas. Il y avait des rumeurs qui circulaient que le contrat était là, puis qu'il avait juste à le signer, puis peut-être qu'il a décidé d'attendre, puis voir comment ça va se passer l'année prochaine. Puis il veut peut-être terminer son mandat, comme il a dit dans un des points de presse à la fin de la saison, puis quitter, puis aller ailleurs. T'sais, gérer le Canadien de Montréal, c'est un stress incroyable. Puis il a fait des bons coups, il a fait des mauvais coups, il a amené son club cette année à une finale de Coupe Stanley, c'est parfait. Mais gérer ce stress-là quotidiennement, comparativement à Jim Neal qui est à Dallas, c'est complètement différent. Les attentes sont différentes. Les réseaux sociaux, tout ça fait en sorte que tu es mitraillé jour après jour après jour après jour. C'est les performances de ton club, tes performances à toi comme DG, ton coach. C'est un marché qui est très difficile. Il est bien payé pour le faire, mais peut-être qu'il veut aller voir puis explorer d'autres choses. Peut-être qu'il va prendre sa retraite, comme il a dit en face à la fin de la saison. Tu sais, il va peut-être aller jouer un rôle ailleurs dans la Ligue nationale qui va être moins important, mais qui va lui donner le temps aussi de respirer un peu, puis de vivre un peu. Puis je sais que sa famille est à Chicago, fait que ses enfants, avec la COVID, ils ont probablement pas vu beaucoup non plus durant la dernière saison, puis l'année précédente aussi avec la COVID, tout ça. Là, fait que ça non plus, c'est pas évident au niveau familial, quand tu peux pas traverser les lignes, tu peux pas voir tes enfants. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte du côté humain. Mais je serais pas surpris aussi qu'il signe une prolongation de contrat parce que c'est un gars de défi. Fait que on verra ce qui va se passer, mais des fois là, 10 ans là, ça use à Montréal.
Mais tu sais, il continue encore d'embaucher des gens. Il a embauché Adam Douglas qui est directeur de la science du sport et de la performance. Là, il remplace en quelque sorte Pierre Allard qui a quitté. Ouais. Donc s'il y avait pas les rênes complètes de l'équipe. Tu vas me dire, c'est pas un joueur d'impact, puis ça y a pas d'impact sur la masse salariale, mais il y a quand même une embauche quand même.
Ouais, mais moi je pense que c'est normal. Ça fait partie de sa job de faire ça. Puis tu sais, il y a des embauches, des signatures de joueurs. Je sais pas si t'es obligé d'aller voir Jeff Molson à chaque fois. Je pense pas là. Ça fait assez longtemps qu'il est à Montréal, qu'il n'a pas besoin de demander la permission à Jeff Molson pour signer un David Savard ou un Mathieu Perrault, là. Les plus gros contrats, probablement, quand tu signes un gars comme Carey Price, tu vois ton GM, tu dis, ben, je vais y offrir ça, t'es-tu d'accord avec ça? Voici comment le contrat va être bâti, voici ce que ça va nous coûter en salaire puis en bonus de performance durant la saison. Ça, c'est complètement différent, là. Mais tu sais, c'est sa job. Lui, il peut pas arriver et dire, bon, ben là, je vais finir ma dernière année, puis je fais plus rien, puis je m'assis sur mon steak, puis je laisse l'équipe aller. Je pense que ça fait partie de son mandat. Puis c'est un professionnel, Marc. Puis on dira, peu importe ce que les gens pensent de lui, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Je pense qu'il essaie toujours de faire le mieux pour le club. Puis c'est ce qu'il a tenté de faire depuis qu'il est arrivé à Montréal. Là. Peu importe si les décisions qu'il a prises ont été bonnes ou mauvaises. T'sais, ses transactions, la majorité, ont été bonnes. Ce qui a frappé un coup de circuit, peut-être avec Shea Weber, mais des gros coups de circuit, il n'en a pas frappé. Oui, à Domi, qui t'amène Anderson, ça a été payant. La transaction, oui, Fleischmann, puis qui a amené Romanov, puis un gars comme Dano, ça a été très payant. Fait que moi, je pense que c'est ton mandat. Comme DG, là, t'es payé pour t'assurer que l'équipe va continuer à grandir quand tu vas quitter l'organisation. C'est ça ta job. Dans le fond, c'est pas de la détruire, c'est de continuer à l'améliorer. Pis si jamais ça fonctionne pas, puis tu la mets dehors ou tu t'en vas, parce que toi, tu décides que tu veux plus travailler dans le marché de Montréal, ben, tu sais, t'as un leg, là, puis le leg, il reste quand même important, puis l'équipe, l'année prochaine, si Marc Bergevin n'est pas là, faut que cette équipe-là continue à progresser, puis il faut que t'aies des gens compétents autour de toi, que ce soit dans le vestiaire, comme entraîneur, tous ces gars-là là, qu'on engage présentement, qui vont aider les joueurs à mieux se préparer, c'est important aussi, là, fait que non, moi, je pense que ça fait partie du processus, puis je suis convaincu que Jeff Molson doit tenter de le signer, puis de le prolonger, c'est peut-être la décision de Marc qui va faire en sorte qu'il va rester ou pas.
John Cooper, nommé entraîneur-chef de l'équipe canadienne, si évidemment les joueurs de la Ligue nationale s'en vont aux Jeux olympiques en 2022. Deux questions d'abord. Es-tu d'accord avec ce choix-là? Puis le deuxième des choses, c'est pas un peu bizarre de nommer le coach équipe canadienne alors qu'on sait même pas si les joueurs officiellement, même s'il y a un trou dans le calendrier, là, si officiellement les joueurs vont aller aux Jeux olympiques?
Ben, moi, c'est un peu comme quand on parlait de Marc. Je pense qu'il faut que tu te prépares. Puis c'est sûr qu'il y a des insights qu'on n'a pas que la Ligue donne au pays présentement, au Canada, aux États-Unis, puis à la Suède, de se préparer. Ça se pourrait peut-être que les gars de la Ligue nationale vont être là. Moi, je pense que faut que tu, comme programme, faut que tu t'assures d'être prêt, faut que tu tentes le terrain, faut que tu nommes tes entraîneurs, faut que tu t'assures que ces gars-là sont disponibles, qu'ils sont prêts à y aller, au lieu d'avoir un petit deux semaines de congé. Puis j'aime l'idée d'amener un gars comme John Cooper. C'est sûr que pour moi, Barry Trotz aurait été peut-être mon choix. Tu sais, j'aime ça pour Barry Trotz. Quoique j'aime beaucoup John Cooper aussi, la façon qu'il gère son club, puis la façon qu'il s'exprime, qu'il parle aux médias, tout ça. Je trouve que c'est un gars calme, très, très posé, qui a des bonnes connaissances. J'ai aimé de la façon qu'il s'est comporté durant la dernière, encore une fois, la finale de la Coupe Stanley avec les médias. Fait que, tu sais, je pense que c'est un gars qui a beaucoup d'expérience, qui a le potentiel. Mais, tu sais, tu mets John Cooper comme entraîneur-chef, tu mets Barry Trotz, Cassidy, tous ces gars-là sont capables de faire le boulot. Là, c'est un choix qu'on a décidé de faire. Tu sais, il vient de gagner les deux dernières Coupes Stanley. Je pense qu'on a fait un bon choix, mais Barry Trotz aurait pu faire la même chose. C'est avec Cooper comme associé.
Ouais.
Tout le monde va avoir un rôle très important à jouer si jamais le club va aux Olympiques. La seule différence, c'est que c'est John Cooper qui a qui va prendre les dernières décisions, qui va aller sur la glace, pourquoi, puis ça, c'est lui, ça va y revenir à lui, mais le fait qu'il a gagné deux Coupes Stanley, c'est normal. Moi, je pense qu'il soit là.
Autre sujet, et le dernier sujet, Carter Hart, 3 ans avec les Flyers de Philadelphie, presque 4 millions par année, 3 ans de contrat. L'année passée, ça n'a pas été facile pour lui, puis les Flyers s'en sont ressentis.
Oui. Moi, je trouve que c'est un beau contrat. On appelle ça un pont. Habituellement, ouais. Le pont, c'est 2 ans. Là, on y va à 3 ans. C'est le gardien encore d'avenir là, du côté des Flyers. Ça n'a pas bien été, mais tu sais, on est allé chercher Ellis, on est allé chercher Ristolainen, on a fait des petits changements défensifs qui vont probablement aider le gardien de but à être meilleur encore. Puis moi, je pense que ça fait partie du processus normal. Tu sais, on n'a pas besoin d'aller très très loin. Puis il y a encore des détracteurs de Carey Price qui l'aiment pas. Mais tu sais, à un certain moment, Carey Price était très jeune. C'est Halak qui a fait la job d'un playoff. Puis on a échangé Halak parce qu'on voulait peut-être pas avoir une distraction l'année d'après. Est-ce qu'on a pris la bonne décision à ce moment-là? Peut-être pas. On aurait peut-être pu attendre puis avoir plus pour Halak, mais il reste que c'était Carey Price, le gardien de but d'avenir du Canadien de Montréal. Puis cette année, il a amené son club en finale. C'est pas de lui dans la série contre Toronto. Le Canadien gagne pas. Moi, je pense que c'est la même chose avec Carter Hart. Puis on va probablement voir ça avec Spencer Knight, avec les Panthers de la Floride. C'est des gardiens de but d'avenir prometteurs, mais ils ont des choses à apprendre avant de devenir des gars qui sont capables d'être réguliers année après année après année. Carter Hart avait eu une saison incroyable l'année précédente. Puis l'année passée, ça a été difficile. Ça a été difficile pour Brian Elliott qui a quitté l'organisation. Fait que, tu sais, c'est ton gars d'avenir. C'est ton gars que tu vas placer devant le filet cette année. Puis je suis convaincu que Carter Hart va rebondir. À quel niveau, je ne sais pas. Mais ça peut pas être pire que l'an passé. Puis s'il donne un contrat, il va être capable de bien travailler au niveau de, tu sais, de peut-être pas de sa confiance, mais tu sais, le casse-tête de dire hey, si j'ai une mauvaise saison cette année, ça va être ma dernière année l'année prochaine, je suis mieux d'être bon encore. Fait que c'est la pression, tu sais, sur un contrat de 3 ans, tu peux gérer peut-être un peu mieux ça. Mais je suis convaincu qu'avec le groupe d'entraîneurs puis l'organisation des Flyers, que Carter Hart va rebondir. C'est un très, très bon contrat.
Benoît, toujours un plaisir. Merci beaucoup. On se reparle prochainement. Reste pas loin. T'es jamais à l'abri d'un coup de fil.
Je suis jamais loin, je suis à Sainte-Barbe.
OK. Salut.
Ciao.